Édifie de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir nous allons de nouveau rester dans la veine occitane parce que nous avons la joie de recevoir ici dans ce studio de la rue de la Salie Hervé Terral. Hervé Terral, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour nous parler du dernier livre que tu viens d'écrire, L'Occitanie en 48 mots. Alors, si tu le permets, avant d'aborder ce sujet, l'Occitanie, je voudrais, comme d'habitude, faire quelques annonces sur des parutions de poésie. Je serai très bref ce soir, pour ne pas, évidemment, amputer le temps consacré à cet important livre, L'Occitanie en 48 mots. Mais je voudrais simplement parler quand même de Brigitte Maillard. Je reviens sur ce livre de Brigitte Maillard. Brigitte Maillard, que nous avions reçue à Radio Occitanie, puisque vous pouvez trouver sur notre site les-poètes.fr, l'émission qui lui a été consacrée à la suite de la parution de son livre « À l'éveil du jour » paru aux éditions Monde en Poésie. Alors Brigitte Maillard, avec « L'éveil du jour », elle révélait une expérience humaine qui est vécue comme un appel à ce qu'elle appelle la vraie vie pour que naisse le jour. Et une aventure en poésie donc qui a conduit Brigitte Maillard aux portes du silence. Et ce récit, à l'éveil du jour, témoigne par la douleur et la joie de cette clarté vibrante qui nous entoure, une vie dont nous sommes avant tout le vivant poème. Alors, Brigitte Maillard, elle est auteure, interprète, c'est une comédienne. Elle vit en Bretagne et après des études de lettres, donc elle est devenue comédienne, elle a exercé divers métiers liés à la communication, puis elle s'est orientée vers la poésie et la chanson. Et elle a eu le prix de l'Académie des Jeux Floraux, qui avait été instauré par le professeur André Besse de l'Académie des Jeux Floraux, qui a disparu il y a peu de temps. Et donc elle avait eu ce prix donc, de la chanson poétique, ici à Toulouse. Donc, un tournant s'est imposé pour elle, c'est dire la vie, cette vie qui nous réinvente, et elle fut l'auteur de La simple évidence de la beauté, paru Atlantica, de Soleil, Vivant Soleil, avec une préface de Michel Cazenave, ceci à la librairie Galerie Racine. Alors, l'expérience de Brigitte Maillard, c'est qu'elle a été atteinte par une maladie, et elle a combattu cette maladie par, justement, cette quête spirituelle qui est indépendante de toute religiosité. Et cette quête étant essentiellement orientée par l'étude et la pratique de la langue et de la poésie. Et ça a été une véritable résurrection. Une véritable résurrection, donc, par cet exercice de la poésie, qui a été un exercice réussi. Alors, elle republie au Monde en Poésie, ce sont des éditions qu'elle a créées, très belles éditions, petits livres blancs qui rappellent un petit peu les livres poésie Gallimard, pour des prix tout à fait abordables, puisque c'est 12 euros, et le dernier, La simple évidence de la beauté, c'est un petit livre à 8 euros. Elle republie donc La simple évidence de la beauté, qui était épuisée. Donc je vous invite véritablement à lire cet ouvrage. Nous aurons le plaisir, je pense, d'ici quelques semaines, d'avoir de nouveau Brigitte Maillard pour justement faire un petit peu le tour de cette publication. Alors, simplement quelques extraits. Je te donne l'or de vivre. La lumière se porte à merveille, cerise sur le gâteau. Je te donne le secret dans mes lèvres, le goût sucré de la vie, sel ivre de soleil et d'orage. Je te donne un mirage, puis deux, puis tout l'or du monde, la petite robe sous le manteau, le bain du corps sur la luzerne, je te donne la main d'un rêve. Voilà Brigitte Maillard, donc s'ouvrir à la vie qui s'ouvre, dégager l'espace, se laisser prendre par le poème qui nous donne la parole, essayer de se tenir là, dans la réalité sensible de la vie, entre le souffle et l'être surgit l'essence que l'on nomme poésie. Brigitte Maillard, à lire aux éditions Monde en Poésie, vous aurez toutes nos références de ces deux ouvrages sur notre site les-poètes.fr. Alors, Hervé Terral, un livre qui, moi, me semble être important et dont j'espère qu'il aura une bonne diffusion parce que c'est, à mon sens, et c'est moi qui parle à mon nom personnel, mais je crois que quand on parle de l'Occitanie, il faut pouvoir, d'abord, c'est bien que ce livre soit sur l'Occitanie, soit en langue française, donc il s'adresse à un ensemble de publics, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que le public qui lit l'Occitan et qui écrit l'Occitan doivent manquer cette lecture, loin de là, mais je pense que il faut des ouvrages, qui soient des ouvrages, ce qu'on appelle des ouvrages de grande vulgarisation, au sens le plus noble du terme, hein. Attention, la vulgarisation, pour moi, c'est au contraire l'art le plus difficile et le plus noble. Et ça permet également de recentrer un petit peu sur la réalité de ce que découvre ce terme, pardon, d'Occitanie, qui est actuellement un terme important, puisque notre région, qui vient de s'étendre avec la région Languedoc-Roussillon, va changer de nom et que, bien entendu, beaucoup souhaiteraient que cette région s'appelle l'Occitanie. Alors, qu'est-ce que l'Occitanie? Eh bien, Hervé Terral nous donne une réponse dans son livre « L'Occitanie en 48 mots » aux éditions IEO, hein, c'est l'Institut d'études occitanes, où il, en 48 mots, et ce sont des 48 mots qui sont choisis, on ne va pas vous donner la liste, mais on vous en indiquera quelques-uns. 48 mots choisis pour du néophyte curieux aux militants, hein, ce que j'ai dit, c'est-à-dire véritablement un public très large, avoir plus qu'un aperçu des différents aspects de la langue et de la culture occitane, qui font ce socle commun sans lequel il n'y a point de débat. 48 mots comme autant d'entrée dans la pensée et les enjeux de la langue et de la culture occitane pour mieux se comprendre et se connaître. Alors, comprendre et connaître, et ceci pour tous. Voilà. Alors, qui est Hervé Terral, pardon? Hervé Terral est savant ou professeur de sociologie à l'université Toulouse-Le Mirail. Depuis peu,
Jean Jaurès,
maintenant, pardon, c'est vrai. Bon, ça s'appelait Toulouse le Mirail avant. Hein.
C'était le Mirail.
C'était le Mirail au moment de la publication. Voilà. Et bon, ça s'appelle maintenant Toulouse Jean Jaurès, qui est même quand même beaucoup plus emblématique. Et Hervé Terral qui a publié plusieurs ouvrages donc sur la culture occitane, dont en particulier La langue d'oc devant l'école, toujours aux éditions IEO. Alors, une carrière d'enseignant, hein, Hervé. Le bac en 68, c'est important ça quand même, passer le bac en 68.
C'était plus délicat qu'on ne l'a dit.
Oui, c'était peut-être plus délicat qu'on... Moi, j'ai passé le bac avant 68, et bon, j'étais à Berthelot, et il n'y avait pas beaucoup de... Je crois qu'il y avait 5%. Bon, donc c'était quand même inquiétant. Bon, et après, il y a eu cette fournée 68 et qui a marqué quand même aussi une entrée à l'université qui a été beaucoup plus manifeste, grande que ce que d'avant 68, hein, par exemple.
Oui, oui, voilà. Tout à fait. Voilà.
Alors, une carrière d'enseignant. D'ailleurs, j'ai été surpris d'en voir cette carrière. Je ne savais pas qu'il y avait tellement bourlingué comme ça. Et c'est vrai que quand on embrasse cette carrière d'enseignant, comme toute carrière d'ailleurs de fonctionnaire d'État, hein, il faut s'attendre à certains déplacements. Hein, tu avais même enseigné dans la région parisienne.
Parisienne, en Bretagne.
En Bretagne, oui. Alors, tu as enseigné, par exemple, tu as enseigné le français, tu as une formation de philosophie, de psychologie, j'ai vu,
oui.
De sociologie, et tu
sais... J'ai fait beaucoup d'études.
Oui.
Voilà.
Oui. Et il y aurait une singularité sociale dans l'enseignement que tu as donné, puisque tu enseignais... la sociologie qui aurait un rapport un petit peu avec quand même la sociologie sociale, c'est aussi un peu d'ethnologie.
Oui, j'ai des collègues qui se disent socio-anthropologues.
Anthropologue,
ça fait très chic.
Oui.
Ça en fait deux pour le prix d'un, comme je dis, mais bon, pourquoi pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un abus de langage. Et j'ai un côté sociologue tourné vers l'histoire.
Ouais. Ouais. Oui, et d'ailleurs tes ouvrages sont souvent des ouvrages historiques.
Oui, j'ai fait
une
partie de recherche sur l'école de la République, sa construction, et c'est un peu comme ça, je suis arrivé à l'Occitanie, je suis arrivé beaucoup plus tôt, mais enfin je me suis intéressé par exemple aux instituteurs hétérodoxes, atypiques, style Père Bosque, des gens qui ont défendu l'Occitan et qui étaient de vrais hussards noirs de la République.
Oui.
Bon, évidemment, on n'en parlait pas beaucoup de ces gens-là. Voilà.
Alors, tes parents, tu as été élevé à Paris, si j'ai bien compris.
Alors, j'ai été. Je suis le fruit d'un transport amoureux ferroviaire, si j'ose dire, puisque mes parents se sont connus dans le train. Ma mère venait de Nîmes et mon père de Béziers. Ils allaient à Paris à l'époque, bon, il y avait 10 heures de train, on a le temps de faire connaissance, en tout bien tout honneur, on n'est pas dans les transports aériens d'Emmanuel 1970, quoi. Et compte tenu, c'était au début des années 50, des difficultés économiques ont fait que j'ai été envoyé chez mes grands-parents à 15 jours, à une portée d'arbalète du pont du Gard, entre Nîmes et Uzès, c'est que j'y suis resté jusqu'à 8 ans, où je suis monté à Paris 5 ans, puis mes parents, alors, sont redescendus dans ce qu'ils appelaient le Midi, et ils m'ont donné, de 8 à 13 ans, une conscience méridionale, avec Pagnol, enfin bon, tout ce qu'il y avait à l'époque, comme référence. Ce qui fait que j'ai connu ce double problème d'être marseillais à Paris, et parisien à Nîmes, quand je revenais.
Alors, donc, une conscience éveillée à ce que, à l'époque, on appelait le Midi, quoi.
Le Midi, oui, le midi. Le Mistral dit l'Umidjourne.
Oui. Et, donc, pour en revenir à ce livre, L'Occitanie en 48 mots, tu opposes un petit peu, enfin tu mets en exergue deux termes, l'Occitanie, qui regroupe, si j'ai bien compris, quand même la notion de centralité, au Pays d'Oc, qui eux sont la diversité, représentent la diversité. Alors ça me semble très important, surtout en cette période-là, où il faut, il faut que... Nous, qui habitons cette région, nous comprenions ça. Donc il faut en parler.
Oui, oui, tout à fait.
Il faut parler de ce distinguo.
Tout à fait. D'ailleurs, le titre que j'avais prévu pour ce livre, c'était l'Occitanie, entre parenthèses, ou les Pays d'Oc. Bon, mon éditeur est à l'Institut d'études occitanes, a jugé que le terme Occitanie était... Et bon, prêtez-moi à confusion, alors moi je suis... un auteur assez flexible, quoi, vis-à-vis des éditeurs, d'autant qu'il est difficile d'éditer des livres comme ça, je pourrais en dire deux mots.
Oui.
Mais dans la préface, j'ai réintroduit cette notion, dont je suis pas le découvreur. Un jour, j'avais entendu une conversation de café à l'Estivade de Rodez, où quelques figures historiques de l'Occitanie, quoi, des années 70, avaient évoqué, j'étais juste à côté d'eux, le terme de pays d'oc, en disant finalement, on se serait appelé des pays d'oc, on n'aurait pas été plus stupide, quoi. Hein, bon, enfin, c'était une conversation intime sur le mode du regret, et bon, j'avais réfléchi à ça, et on le voit bien parce que, par exemple, à plusieurs endroits, bon, il y a quand même des pulsions périphériques, le Béarnais n'est pas, moi, un jour, je suis allé causer à Oloron pour un colloque sur les 150 ans de la grammaire gasconne de Vastin-Lespie. Et le maire d'Oloron m'a dit en aparté, vous savez, ici, on a deux tendances. On a les Béarnais-Béarnais et puis les Béarnais-Occitanistes. Il faut satisfaire tout le monde. Enfin, vous voyez, hein, ce genre de propos, quoi. Bon, on le voit en Provence à certains aspects. Enfin, voilà. Donc, il y a effectivement la question de l'unité, la question de la diversité. Et les deux vont de pair. Bon, si, il y a un auteur bon, dont je parle... parce qu'il est sociologue, enfin philosophe, qui est Henri Lefebvre, le Pyrénéen, dont tout le monde ne se rappelle
plus. Historien aussi.
Oui, mais surtout, non, il est surtout connu, Henri Lefebvre, comme sociologue de la ville, ça a été le père spirituel de Daniel Cohn-Bendit, en plus, à Nanterre. Mais enfin, il avait fait sa thèse sur la vallée de Campan, pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa thèse vient d'être enfin éditée. Et il y a un terme qu'il emploie toujours, parce qu'il était beaucoup marxiste à une époque, alors c'était le terme de dialectique. Et là, je crois que pour le coup, la dialectique entre unité et diversité marche en permanence. Il y a cette contradiction et cette recherche d'unité, quoi. Enfin, c'est un point saillant. Alors, selon les moments, on peut privilégier l'un ou l'autre, selon les endroits, voilà, quoi. Hein.
Est-ce que je me trompe si moi je dis mon sentiment c'est que le côté centralisateur actuellement est en train un peu de gagner.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quand même des pôles de dispersion. Bon, c'est vrai qu'il y a des côtés. Il y a un côté centralisateur qui est évident. Bon, les manifestations pour la défense de Languedoc depuis 10 ans, là, il y en a eu 5 quand même. Oui. Hein. D'ailleurs, ce livre est né de ma participation à une de ces manifestations.
Laquelle ?
Celle de Carcassonne, la seconde. Alors, j'ai pas dit que j'ai eu mon chemin de Damas comme Paul, puisque j'étais déjà quand même. Mais je me suis dit, il faut faire un livre, quoi. Voilà. Alors, il y a ce côté-là, effectivement, il y a ces manifestations. Mais enfin, on sait bien, après, que il y a tout un tissu... voilà, je parle en tant que sociologue, hein, de la culture occitane. Il y a tout un tissu de groupes locaux, alors qui s'appellent le Cercle Occitan, qui s'appellent Oustaou Occitan, etc. Et il y en a dans les grandes bourgades, dans des villes de 10 000 habitants. Et c'est un tissu réel, quoi. Oui. Hein, s'il permet d'amener des gens à des manifestations centrales, quoi.
Bien sûr. Oui. La manifestation dont tu parles, il y avait énormément de monde, c'est un problème important.
Parce que enfin bon, je veux pas critiquer le journal La Semaine, mais La Semaine a été un journal pan-occitan pour moi, enfin, et il tend à devenir un journal béarnais tout en étant occitaniste, quoi, hein. Bon, je sais pas pourquoi, enfin, hein. Et on voit bien qu'il y a des journaux locaux, je reçois par mail à Kodaki, enfin des journaux provinciaux. On voit bien qu'ils sont provinciaux, quoi, hein, mais ils sont occitanistes en même temps. Et il faut bien qu'ils attrapent les gens par les réalités locales, que ce soit la fête des escargots.
Oui, c'est ça. Donc par la réalité locale, et qui ensuite s'agrège.
Voilà, qui s'agrège, et bon, l'agrégation est toujours difficile pour n'importe quelle culture et n'importe quel pays. Bon,
c'est peut-être ça, cette agrégation qui a été vraiment quand même très difficile, et qui me semble maintenant quand même réussir. Non.
Moi, je ne sais pas si elle réussit. Oui. Je n'en sais rien parce que je vois quand même. Enfin, je veux pas.
Parce que les intérêts sont liés.
Je veux pas désespéré bien court, comme disait, oui, dirait l'autre. Mais enfin, bon, quand même, dans beaucoup de manifestations culturelles, etc., il y a énormément de cheveux blancs actuellement. Voilà, quoi. J'ai un copain qui dit ça. Quand je regarde à la télé, quand je vous regarde, vous, les Occitans, il est tout à fait Occitan, mais il parle pas un mot. Quand je vous regarde à la télé, je vois les cheveux blancs, quoi. Bon, il y a sûrement des tas d'associations où il y a des cheveux blancs. Hein.
Bon, il y a les
canards, je sais pas si. Alors bon, effectivement, ce que tu évoques, cette réforme là régionale, bon, elle sera aussi, oui, ce que les gens font, hein, mais enfin, bon, ça peut changer les choses, mais.
Alors, ce qu'il y a dans ce livre, L'Occitanie en 48 mots, c'est aussi un regard, c'est un regard qui manque, hein, dans la littérature courante, sur la civilisation d'Oc. Bon, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas résumer la culture occitane à sa langue. Ce serait, à mon avis, c'est suicidaire, ça.
Oui. Hein,
voilà. Et il faut que l'on fasse comprendre que la culture occitane, c'est aussi la révélation et l'épanouissement d'une civilisation, hein, qui a là un mouvement culturel très important, mais qui est aussi un mouvement éthique, hein, quasiment éthique, politique. Et ce livre en rend bien compte. Ce livre en rend bien compte. Alors, cette civilisation d'Oc, en définitive, dans les temps modernes, elle a été assez peu décrite. Le dernier en date, c'est René Nelly, hein, et ô combien. René Nelly, qui était chargé de cours à l'université, donc qui s'appelait Le Mirail à l'époque, et qui était...
Ethnographie méridionale.
Et il y a une phrase que tu reprends, qui est une belle phrase, où il dit « L'Occitanie n'est pas musée ».
Tout à fait, voilà. il était conservateur, voilà, de musée, voilà.
Oui,
à Carcassonne, donc il sait de quoi il parle.
Voilà. Donc l'Occitanie n'est pas musée. Alors ça, il faut bien le dire, l'Occitanie n'est pas musée, c'est quelque chose qui est en mouvement, hein, sinon c'est mort. Et qui est toujours en mouvement, qui est aujourd'hui certainement beaucoup plus en mouvement que ne l'a été les années antérieures, parce que l'enjeu est un enjeu énorme, je pense. Hein. Mais cette civilisation, il faut rappeler ce que c'est. Alors, pour rappeler ce que c'est, eh bien, il faut faire appel, dans un premier temps, à l'histoire. Hein.
Tout à fait.
Alors, l'histoire, elle commence avec Al-Andalus, où l'Occitanie et les morts.
Le livre, voilà, commence par l'Andalus. Voilà.
Alors, ce livre, oui, bien sûr. Alors, donc toi, tu fais commencer donc l'histoire de l'Occitanie par Al-Andalus. Hein. Donc, ce livre, il est bâti sur ces fameux 48. En fait, il y en a 49.
En
réalité.
S'il y en a un caché, comme voilà. Le grand imam.
Alors, il y en a un caché, c'est celui sur Joseph Delteil, hein, dont vraiment il faudra reparler aussi, Joseph Delteil. Hein. Et donc, il y a des tas de chapitres, par exemple, à l'Andalouse, art plastique, les Bastilles, le canal du Midi, etc., les croisades, le Félibrige, Gascon, gastronomie occitane, Montségur, l'Occitanie, le Parage, le protestantisme, etc., le rugby, bien sûr, etc., etc., etc. Bon, voilà. Donc, on va sur ces notions. Alors, on va commencer, donc, avec Al-Andalus ou l'Occitanie et les morts. En 711, la conquête par cette armée arabo-berbère, hein, d'une partie, donc, de la péninsule ibérique, et ce que l'on sait moins, parce que c'est quand même mal enseigné à l'école, ça, nous serons d'accord là-dessus, hein, c'est que ce qu'on appelait la Septimanie, qui était cette notion si chère au regretté Georges Frêche, était sous la domination, sous l'occupation des arabos
berbères.
Hein, voilà. Et ceci, donc, c'était tout, à peu près tout l'équivalent du Languedoc-Roussillon, sauf la Lozère. Hein, voilà.
Terre gauloise.
Terre gauloise, qui est restée celtique. Oui.
Bon. Si j'ose dire.
Ouais. Et il a fallu attendre 721 pour que le duc Eudes d'Aquitaine arrête, hein, entre guillemets, hein, comme on a appris à l'école que Charles Martel avait arrêté les Arabes à Poitiers en 732. En réalité, il y a un événement, à mon avis, historique plus important, semble-t-il, c'est celui de 721 où le duc Eudes d'Aquitaine
arrête.
711, c'est la conquête. 721, je pense que c'est le. Il me semble. C'est le duc Eudes donc qui arrête les Arabes.
Oui,
721, voilà. Et donc il arrête les Arabes devant Toulouse. C'était quand même une certaine audace à cette époque-là, puisqu'il y avait une forte domination, hein, c'est ça, Hervé. Il y avait vraiment une forte domination. Et donc, pour se faire un petit peu pardonner de cette audace, si j'ai bien compris, il va marier sa fille, Lampégia, au gouverneur berbère de Narbonne.
Oui, ça fait l'objet de spéculations diverses.
Hein, voilà. Alors, et puis, ce mariage finira assez mal, hein, puisque l'émir de Cordoue n'apprécie pas tellement ses avances diplomatiques.
Voilà.
Et la dame en question, la belle en question, va finir certainement dans un harem d'Orient. Bon, alors, tout ça pour dire que l'influence arabo-andalouse est énorme dans le façonnage donc de la civilisation occitane.
Oui, alors, ce que tu es en train d'exposer, là, c'est la thèse chère à notre ami Alain Garcia, extrêmement sympathique, lettré, etc., personne ne lui contestera ses qualités, qui rencontrent un grand écho dans les milieux occitanistes. Bon, en partie parce qu'ils connaissent ce format. Il y a des gens pour qui c'est une révélation, cette affaire-là, quoi. C'est l'affaire des morts, c'est une révélation, quoi. Enfin, je le sais parce que j'ai rencontré des gens qui me l'ont dit, qui m'ont dit « ça m'a ouvert des horizons, je ne pensais pas ». Bon, alors, c'est une thèse que certaines nuances, enfin, moi je connais... des gens dans l'université qui nuancent cette thèse, bon, ils ne nient pas effectivement que les morts étaient à côté, forcément, y a eu des conflits, il y a eu des échanges, quoi. Hein. Mais par exemple, si on prend, je dois le mentionner quelque part, là, l'article Troubadour, il y a eu un petit livre qu'avait fait Monsieur Gros-Claude Père, professeur de philosophie sur l'origine de l'art des troubadours. Bon, l'hypothèse arabo-andalouse, c'est une hypothèse sur 7, quoi. Hein? Ça explique pas vraiment pourquoi, par exemple, l'art des troubadours est né plutôt dans les confins du Limousin. On peut toujours dire que Guillaume de Poitiers était allé en Espagne, mais enfin, il est surtout allé en Espagne pour les massacrer, les morts.
Quoi. Oui,
mais bon. Alors qu'il est ramené, peut-être, quelques jouvencelles et quelques poésies, c'est possible. Hein. Voilà. Alors, moi, je l'ai pas mis cet article au début, je l'ai mis au début parce que c'est la lettre A, tout simplement, quoi. Hein. Et le livre se finit pratiquement, enfin, sauf le dernier article sur Delteil, par Visigoth, quoi. Visigoth, c'est W. Alors, ça fait partie un peu des références aujourd'hui un peu mythiques, même s'il y a des choses tout à fait exactes. Ce que tu as rappelé, là, sur d'Aquitaine, tout ça, semble exact. Enfin, que ce d'Aquitaine ait précédé Charles Martel, qu'il ait été... oblitéré dans l'histoire de France, voilà, il y a des lectures dans tous les pays, il y a des lectures, l'historien Marc Ferraud avait très bien montré ça dans un livre des années 70, comment on refait l'histoire sans cesse, et notamment même en faisant dire à des noms de lieux qui sont restés, prenez l'exemple en Pologne, qui sont restés dans la mémoire, mais en leur donnant une autre signification. C'est-à-dire que là où il y avait eu, par exemple, les Polonais avaient mis une pâtée aux Russes, c'est devenu le lieu d'une révolte ouvrière, quoi. Enfin, hein, mais le nom de lieu est resté, quoi. Hein. Alors bon, Suède d'Aquitaine a effectivement la bataille qu'il a remportée sur les bords de Garonne, semble-t-il, vers Blagnac, a été un peu oubliée, quoi. Enfin, sans doute volontairement. Mais enfin, comme des tas d'autres choses, hein, quand... quand je cite, alors à l'article, je reviendrai sur les Visigoths s'il y a lieu, dans l'article Littérature occitane d'expression française, je cite, je commence par une citation d'Elifort, qui est surtout connu comme historien de l'art, mais qui en fait était médecin, qui a fait la guerre de 14 au front, et qui est très lié à la famille béarnaise et girondine des Reclus, qui ont donné Élisée Reclus, enfin, et même Pauline Clergomard, enfin, toute une série de personnalités du XIXe siècle. Et dans son livre La Sainte Face, qui est consacré justement à la guerre de 14, voilà, il dit, je note ça, hein, trois hommes essentiellement ont fondé la pensée française, Montaigne parce qu'il a douté, Descartes parce qu'il a systématisé ce doute, Pascal parce qu'il l'a vaincu. Tous trois sont du sud de la Loire et deux parlaient la langue d'oc. Après eux, cela continue. Donc ça, on voit bien, il a tout, j'ai pris cette citation parce que, alors il en donne une autre, hein, en allant de sa source, où naît Pascal à son embouchure, où naît Montesquieu, il parle de la Dordogne. On rencontre Champfort, on rencontre La Boétie, on rencontre Brantôme, on rencontre Montaigne, on rencontre Fénelon, on rencontre Ben de Biran, et à peine en dehors La Rochefoucauld qui est de la Saintonge. Donc ça, c'est bien tout un travail d'occultation qui a été fait. Alors, c'est le même processus que pour être d'Aquitaine, hein, enfin. Voilà, l'occultation de gens, alors qui ont, là, qui effectivement ont écrit en français, à un moment où le français, quand même le français, dès le XIVe siècle, s'impose comme grande langue européenne. Hein. C'est pas simplement l'édit de Villers-Cotterêts, quoi. L'édit de Villers-Cotterêts a son importance, hein, mais d'ailleurs, le fameux Gaston de Foix écrit en français au XVe siècle, hein, c'est l'histoire de... Mais voilà, le substrat de ces auteurs est complètement leur origine... Est occulté, là, ce qu'ils ont de commun, là, hein, là, vraiment, cette Dordogne est extraordinaire, quoi, hein. Hein, voilà, là, on a un exemple, hein. Et alors, une fois, j'ai d'ailleurs, là, je viens d'aller écouter quelques spécialistes de la pensée de Montaigne à Périgueux, où il y avait trois jours consacrés à l'histoire de Périgueux, et je me souviens avoir entendu à la maison d'Occitanie, il y a deux ans ou trois ans, une conférence de l'éminente Fausta Gavarini, qui est florentine, qui est une grande spécialiste de Montaigne, qui a entre autres parlé de Montaigne et l'Occitan, qui disait, lorsque je suis arrivé à 25 ans en France, moi, florentine, pour faire ma thèse bon, autour de Montaigne, etc., j'ai été absolument stupéfaite de découvrir que dans les universités françaises, les départements de lettres, grosso modo, n'enseignaient jamais les troubadours, par exemple. Ou même les poètes du XVIe siècle, jamais. Ce qui est quand même, je veux dire, ça l'avait remué, quoi, à 25 ans. Et, bon, voilà, quoi. Hein, donc, ces phénomènes d'occultation...
Ce qui n'est pas le cas à l'étranger.
Voilà,
c'est
oui.
Ce qui,
voilà,
c'est,
oui,
c'est, oui. C'est qui est quand même extraordinaire. Alors, ça tu viens de dire quelque chose. On a fait quelques émissions sur les troubadours, en particulier avec Gérard Zucchetto, qui était quand même un des spécialistes.
Oui, qui est un connaisseur.
Qui est un grand connaisseur quand même des troubadours. Hein, 30 ans de travail là-dessus. Il a repris tout ce qu'avait fait Nelly, etc. Hein. Et ses partenaires d'études, c'est Stanford. Donc, il a des interlocuteurs à l'étranger, il est pris en considération à l'étranger, il n'est pas pris en considération ici. Et là, il y a un hiatus quand même qui me semble être important, oui, et Et je crois que quand même la civilisation occitane aussi est tout de même reliée aux troubadours, et qu'il serait urgent de véritablement faire ce travail que toi tu fais sur la vulgarisation de l'Occitanie, ce qu'elle découvre, ce qu'elle couvre cette civilisation sur les troubadours. Hein.
Sur les troubadours et d'autres. Les troubadours, oui, c'est le plus saillant. Quoi. Enfin, oui. Je veux dire que les gens, je sais pas, qui font des études à Toulouse. Sache rien des troubadours, bon, mais on peut citer des tas d'autres exemples.
Hein. Avec ce qu'a fait, par exemple, René Nelly,
c'est oui, qu'il non, mais quand même... Voilà, bon, hein, ce sont des poignées de gens.
Oui,
qui...
oui.
Moi, par exemple, c'est un peu désolant, mais j'ai constaté que les étudiants en sociologie en cinquième année dans le master de recherche ne connaissaient absolument pas, alors bon, peut-être à leur âge, j'étais peut-être un peu pareil, il faut être indulgent, mais enfin, ne connaissaient absolument pas la ville de Toulouse. C'est pas la ville de Toulouse. Et quand je disais quelle est la statue, alors pas chercher l'hôtel d'Assisa, ils savent pas ce qu'est l'hôtel d'Assisa, mais quelle est la statue qu'il y a à Place Wilson, ils ne savent pas. Alors je leur dis, alors y compris des gens, on peut toujours trouver des gens qui débarquent et qui savent rien. J'avais eu comme ça un malgache en deuxième année, qui savait, je parlais du lycée Saint-Cernin, qui était le lycée de jeunes filles historiques, hein. J'ai dit, en face, la basilique Saint-Cernin. Il savait pas où était la basilique Saint-Cernin, quoi. Alors, j'ai dit, écoutez, là, ça fait 6 mois que vous êtes là, bon. Alors, vous allez au syndicat d'initiative, vous prenez un plan historique, et le samedi, voilà, quoi. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. Mais moi, j'ai trouvé des gens qui étaient de Toulouse, ou des confins, l'Ariégeois, etc. Goudouli, il savait pas qui c'était.
Alors, Ephraim Michael, n'en parlons pas. Alors.
Voilà. Et alors, si on leur disait, ben voilà, c'est quand même un grand poète, là, fin Toulousain, bon, ben oui, mais enfin, bon, pour être clair, ils n'en avaient rien à faire.
Les Mundi, c'est quelque chose qui vont partir de la faculté sans.
Ils n'en avaient rien à faire.
Ah oui, sans.
Et si, parce qu'il y a des gens que je connais, je fréquente. Si 3 semaines après, je faisais une piqûre de rappel, Goudouli,
oui.
Je sais pas.
Oui.
Hein, c'est... Oui. Et alors, bon, c'est pas le propre que de jeunes gens, parce que j'ai participé à mes séminaires d'histoire, des idées, de ceci, cela. Et notamment, à un moment donné, je me souviens de quelque chose autour du protestantisme du 16e, du 17e, enfin, etc., avec des gens d'autres disciplines, pas que des historiens, quoi, des germanistes, des anglicistes, etc. Et j'avais constaté que chez ces éminents collègues, parce qu'ils étaient éminents et reconnus, qui avaient vraiment des parcours indiscutables, qui étaient devenus universitaires avec ce cas, bien sûr, avant, en sortant de certaines normales sub. Bon, les cathares, il y a à peu près ce que c'était, les vaudois, pas du tout. Ils ne savaient pas ce qu'étaient les vaudois. Hein, d'un point de vue religieux, quoi.
Oui.
Et pourtant, on était dans un séminaire.
Oui.
Alors, on distinguait toutes les formes de la réforme, en Suisse alémanique, enfin, etc., quoi. Hein. Mais ils étaient à Toulouse, prof à Toulouse, et voilà, les Vaudois, ils ne savaient pas.
Alors, est-ce que tu en parles des Vaudois? Je ne crois pas.
Je dois en parler, j'en dois en parler, parce que ce sont des
dans gens... le protestantisme.
Oui, dans l'article
protestantisme,
ils ont été... Ou dans l'article cathare, à la fin, je dis que c'était les cousins germains, quoi.
Oui, oui.
Hein, dans l'article protestantisme, oui, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même des Vaudois en Italie occitane, Enfin, maintenant, ils ont rejoint le protestantisme orthodoxe, hein, depuis le 16e siècle.
Alors, il y a un sujet qu'on pourrait aborder, parce que c'est un sujet d'actualité, et puis à deux titres d'ailleurs. D'abord parce que la Catalogne, notre région, englobe une petite partie de la Catalogne quand même. Hein.
On ne peut pas le nier.
Et ensuite, parce que il y a un grand mouvement, j'étais la semaine dernière d'ailleurs en Catalogne, et il suffit de lever la tête aux fenêtres pour voir que ce mouvement est un mouvement véritablement de masse, sur l'indépendance de la Catalogne, c'est-à-dire le détachement de cette ce qui est actuellement une région, une grande région, qui deviendrait un État. Alors, toi, tu consacres un chapitre à la Catalogne. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, bien sûr. Bon, alors, la Catalogne, donc, c'est effectivement complètement dans l'actualité. Bon, ça fait partie de ce qu'on appelle les nationalismes régionaux, avec l'Écosse, qui attend le Brexit, etc. Mais, les nationalistes écossais sont vraiment le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, ils sont pour l'Europe, mais s'ils veulent être indépendants, il faut que le Brexit passe. Alors bon, mais bien évidemment, alors la Catalogne a une histoire.
Oui,
de longtemps lié
à notre histoire.
Voilà, et à la culture occidentale. Bon. Par exemple, cette célèbre bataille de Muret en 1213, qui d'ailleurs est investie. Alors, on me disait récemment, enfin, je ne sais pas si c'est exact, que de même que les jeunes Allemands étaient les grands clients de Montségur en 1970, après avoir lu Autoran, et qu'ils dérobaient au passage quelques pierres du château, ce dont la mairie s'émeuvait, il paraît qu'actuellement, ce sont les Catalans qui sont en première ligne des touristes visitant Montségur. Et alors, on trouve des choses un peu curieuses. Un jour, je me suis trouvé dans un lieu culturel de Toulouse, je ne sais pas si c'était le musée de l'Affiche, quelque chose comme ça, et je suis tombé sur un couple de Catalans, avec qui j'ai discuté dans un sabir international, enfin bon. Et ils voulaient aller visiter Muret. Oui. Alors je leur ai dit, mais si vous allez à Muret, vous allez trouver une stèle au milieu de nulle part. Oui. Et je leur ai dit, allez plutôt visiter Albi, quoi, enfin, si vous avez une journée, quoi. Donc on voit bien qu'il y a de la part de certaines personnes, un investissement, je dirais presque fantasmatique, quoi. Oui. Et alors, donc il y a les faits, mais enfin, bon, comme je le dis, Muret, c'est 1213, et en 1212, le même Pierre d'Aragon, qui va mourir à Muret, remporte avec les Castillans la bataille de Las Navas de Tolosa en Espagne, qui ouvre la porte de l'Andalousie. Donc ils n'ont pas tant à aller chercher au nord, donc ils renoncent, de fait, ils renoncent un peu, quoi, à faire la maison d'Aragon. Et donc, il y a des liens, effectivement, alors des liens culturels, puisque, bon, les Catalans cultivés, bon, je ne dis pas le catalan de base, c'est peut-être pas que le rôle qu'a joué la culture des troubadours, mais enfin, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on appelle la langue d'oc la langue limousine, en référence aux troubadours, en Catalogne. Et donc, il y a un soubassement, il y a un substrat, quoi. Alors après, bon, bien évidemment, les peuples sont séparés par l'histoire. C'est un peu comme, on ne le connaît pas ça, mais je l'avais découvert au Forum des langues, les Estoniens et les Finnois, quoi. Il y a un petit stand de je ne l'ai pas vu cette année, mais il y était régulièrement, de l'Estonie. Et alors, ce brave garçon qui tenait le stand de l'Estonie me répétait tous les ans, l'Estonien, bon, ils sont un peu plus d'un million d'habitants, hein. Ben nous, on a pratiquement la même langue que les Finnois, mais on n'est pas... Et alors, dans un rapport qui était subordonné, parce que les Finnois, l'Estonien, ils n'en ont pas grand-chose à faire, quoi. L'Estonie n'a pas joué un rôle, même dans l'histoire de la Finlande. Pour la Catalogne, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, bon, je veux dire, les indépendantistes... Peut-être que je m'avance, je ne devrais pas dire ça. Je ne suis pas sûr, comment ils appellent ça, les quatre piliers ou les quatre moteurs de l'Europe. Les Catalans, c'est Barcelone, Milan. Pour la France, je crois qu'il y a Lyon. Et alors, il y a Francfort ou quelque chose comme ça. Oui. C'est pas Toulouse, quoi. Il faut être clair, quoi. Je veux faire de peine à personne. Et alors, donc, il y a un professeur... Donc j'ai parcouru le livre en diagonale, professeur catalan, il s'appelle Auguste Rafanel, qui a fait une très grosse thèse, qui est parue en Catalogne, ce qu'il appelle l'illusion occitane. Et c'est comment, dans les années de l'entre-deux-guerres, là, au moment où vraiment la langue est unifiée par Pompée ou Fabra, enfin, avec des tas de discussions, enfin, je suis pas du tout spécialiste de ça, comment l'Occitanie ou la culture occitane est une espèce de miroir, enfin. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en Occitanie, il y a l'illusion, c'est pas péjoratif, hein, l'illusion catalane, quoi. Hein, c'est-à-dire, la Catalogne, c'est un miroir qui nous reflèterait finalement ce que les Occitans n'ont pas réussi à faire à ce jour, quoi. Enfin, voilà. Hein. Enfin, il faut bien voir quand même que, par exemple, la légitimité du catalan dans le grand public, après 1975, elle est passée par le feuilleton Dallas, le feuilleton américain, quand il est paru en catalan, à la télé, quoi. Si Dallas est en catalan, c'est que, bon, c'est pas une langue de sous-fifre, quoi. Hein, hein, voilà, quoi. Alors, il n'y a pas eu de Dallas en Occitan, quoi. Peut-être que sur trois, pourrait passer Dallas en Occitan.
Oui, ils ont réussi, c'est
voilà,
l'épreuve de langue,
c'est
quoi.
C'est assez caricatural,
oui, mais... Oui, tout à fait, hein, oui.
Alors, bien sûr, là, je cite, là, ce fameux politicien qui s'appelle Prat de la Riba, qui, au début du XXe siècle, va se promener en Auvergne et dit... du haut de ces monts d'Auvergne, je rêve d'un pays qui va de Guéret à Guadamar. Enfin, bon, voilà, ça relève de la grande illusion dans le bon sens du terme. Il n'est pas interdit de faire des rêves. Hein. C'est ce qu'avait dit. malheureusement, c'est ce qu'avait dit. Alors, je ne sais plus si c'est Shimon Peres ou Rabin qui avait dit ça à Arafat au moment des accords d'Oslo. Arafat, dans un lyrisme hérité là, du leader noir américain, a commencé à dire « je fais un rêve ». Et l'autre lui a tapé sur l'épaule, lui a dit « c'est pas interdit de faire
des rêves ». Oui. Alors, je retiens en tout cas l'illusion catalane.
Oui, enfin, c'était l'illusion occitane, le livre de Raphaël.
Oui, oui.
Et on peut...
Il faudrait retrouver cette illusion... occitane, parce qu'elle propulse quand même.
Oui, il faudrait.
Beaucoup de choses.
Alors, bon, comme je le note, il y a ce fameux cercle d'Afrairament ou d'Adjernament occitano-catalan, le CAOC, qui est très actif, enfin, qui avait fait cette rencontre occitano-catalan dans les années 2000 avec la fond.
2003, oui.
Oui. Mais bon, il existe toujours ce cercle. Hein.
Et puis il y a l'euro-région, Méditerranée.
Il y a l'euro-région, mais en fait, des euro-régions, il y en a, de tous les côtés. Hein. Il y a des euro-régions.
Oui. Et comme tu dis, même si Barcelone regarde sans doute plus aujourd'hui vers Francfort ou Milan que vers Montpellier ou Toulouse, hein, qui apparaissent quand même comme.
Toulouse est un espace lié. Enfin bon. Mais ça, l'histoire nous le dira, quoi. Hein?
Nous l'espérons.
On est là pour toi.
Oui, voilà. Hein? Alors, on va faire une petite pause musicale pour introduire un petit peu la chanson occitane, qui est effectivement un des vecteurs de connaissance de cette civilisation occitane. Et on va écouter Rosina de Peyre. Hein? Allons-y.
Sous
Chanter à Noët. Alors, le temps passe vite quand on parle de l'Occitanie, parce que, on le voit bien, hein, c'est un sujet, là tu as 48, en fait 49 notions sur l'Occitanie, et la moindre des notions définitives, quand on la développe, on s'aperçoit que on dévide... On tire un fil, et bien des choses, voilà, tout vient.
Que Pierre Bourdieu attribue à la sociologie.
Oui, c'est absolument très bien.
Pierre Bourdieu qui était béarnais au
Titan. Oui, absolument. Alors, on va donc devoir un petit peu abréger, tout en rappelant donc que ce livre est un livre très riche, hein, qui parle du catharisme, qui parle de tous les sujets que l'on peut rattacher à l'Occitanie. Et donc on va s'attacher à deux notions assez rapidement. La première, c'est la littérature occitane d'expression française. Alors il y avait une remarque de Jean Malrieux qui indisposait beaucoup, cette remarque indisposait beaucoup Félix Marcel Castan, parce que je me souviens de l'avoir repris très souvent avec lui. Et c'était un peu un amusement quand on voulait mettre un petit peu Castan en ébullition. Je lui disais, je suis un poète occitan d'expression française. Et alors, il disait...
Castan n'est pas le plus grand nationaliste occitan.
Oui. Et on disait, ça n'existe pas, c'est Malrieux qui avait dit ça, et bon, je persiste à croire qu'il y a une pensée occitane, qui est une pensée aussi, qui peut parfaitement s'exprimer en français. Alors, donc tu consacres un numéro, le numéro 30, à la littérature occitane d'expression française. Tu as parlé tout à l'heure d'Elifort, hein. Tu as parlé de ce mouvement qui évoque la Dordogne et ce qui s'est passé en Dordogne, hein, avec Montesquieu, Chamfort, la Boétie, etc. Bon. Et Maine de Biran, dont on parle...
J'ai une pour Maine de Biran.
Ah oui, voilà, dont, oui, qu'il faut lire, Maine de Biran. Je ne sais pas si les jeunes...
Jugé mineur, voilà. Mais...
Oui. Est-ce que les jeunes lisent Maine de Biran? Ah oui, ça c'est drôle. Hein.
L'avant lui doit cette belle formule, le moi se pose en s'opposant, qui avait été reprise par le psychologue Henri Vallon pour définir l'enfant de 3 ans.
Es-tu comme lui? Ah oui, moi se posant, oui.
Alors, oui, cette expression-là, bon, je l'ai un peu reprise, alors je ne sais pas si c'est... Je je connais un peu Jean Malrieux, fait ses poèmes.
Oui.
Bon, j'ai pas parlé de la poésie hein, moi-même. Le peu que j'ai écrit en occitan de ma vie, je l'ai écrit en poésie, c'est dans des tiroirs.
Ah oui.
Et c'est très peu de choses, et ça restera dans des tiroirs, parce que souvent on me demande, mais pourquoi tu as écrit en occitan? Bon, parce que je maîtrise mieux le français, c'est tout.
Oui.
Comme beaucoup de ces gens-là, qui étaient des gens, alors bon, c'est vrai par exemple pour les gens comme Bosco, pour les gens comme Chanson, André Chanson, qui sont des gens qui ont été très liés au Félibrige, même pour Pagnol, je pense, moi je pense que Pagnol, est un écrivain largement occitan, en fait, d'expression française.
Oui, hein. Oui.
Bon, voilà. J'avais repris ce thème, m'est venu d'un livre de Philippe Gardy, qui était un recueil d'articles, qui s'appelait L'ombre de l'occitan, et qui tendait à montrer comment l'occitan était une espèce de substrat chez certains auteurs qui écrivaient en français. Hein, alors, bien évidemment, il y a des gens qui sont classé comme écrivain provençaux, de style Giono, qui était tout à fait hostile, peu de gens le savent, même à l'idée de Provence. Hein. Enfin, il a tenu des propos sur les faits libres, que je rappelle, où il dit « Si j'avais dû employer cette langue, j'aurais préféré utiliser le chinois. Enfin, » Mais enfin, Giono, bon, il devait connaître, puisqu'il a été assureur, il devait bien placer à Manosque ses assurances en provençal, hein, auprès des paysans, hein, avant d'être consacré.
Il y a des chances.
Hein, il y a des chances, bon, de l'en savoir long. Ouais. Mais enfin, il était de père italien, de mère picarde, il n'avait pas un véritable enracinement. Et la notion d'enracinement, je l'ai utilisée dans les arts plastiques. Hein, et Nelly a beaucoup fait appel. Hein, la suite de Simone Veil, le grand livre de Simone Veil, qui est en folio, que tout le monde devrait lire, quoi.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Et tout à l'heure, j'étais Bourdieu a écrit un livre, Le déracinement sur l'immigration, avec un Algérien dont le nom ne me revient pas. Donc, il y a des gens qui, effectivement, ont l'occitan derrière le français. D'ailleurs, Gardy dit que même Giono, dans ses premières œuvres, l'occitan a fleuré beaucoup plus et ça a été lui-même à éluder, quoi. Enfin, à changer les quelques voilà. Alors aujourd'hui, bon, il y a cette triplette creusoise là, enfin et Limousine, Millet, Michon et Berlouliou n'est pas très favorable à l'occitan, mais enfin bon, d'aucuns diront qu'il y a des traces, enfin. Pour Bergogneau, il y a le latin, puis le français, quoi, entre les deux. Il y avait un auteur comme Millet, qui est Richard Millet, bon, qui est un auteur assez crépusculaire, obscur, aujourd'hui considéré comme quasi-fasciste, enfin, dénoncé comme tel par le Nouvel Observateur, à côté de Zemmour et de Soral, je dis quand même, bon, c'est un peu lourd. Millet parle du patois limousin dans ses textes, hein. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup de Millet, c'est L'Ove le Pur, qui raconte l'immigration dans la région parisienne d'un jeune type, là, du Limousin, qui devient prof dans un LEP. Moi, j'ai été prof de LEP, et je sais ce que ça veut dire. Et qui sombre complètement, et se retourne au pays, et il est consolé par les femmes du village, et il dit, voilà, votre patois limousin, vous êtes en train de le perdre. Enfin, mais voilà, il y a des gens qui ont conscience de voilà.
Jo Bousquet aussi. Hein,
évidemment. Voilà, je n'ai pas cité Jo Bousquet. Alors,
Delteil.
Bien sûr, celui qui fait le caractère de vieux article, c'est Delteil que j'ai placé à la fin parce qu'il scande tous les articles.
Oui.
Et finalement, Delteil, c'est une entrée dans la culture occitane. Il faut lire la Delteilerie, quoi.
Oui. Voilà. Et je crois d'ailleurs que c'est une excellente idée des missions, là, sur finir sur des détails. Voilà, nous avons été rejoints par le temps. Et donc, nous devons rendre l'antenne. Et nous allons finir, si tu le veux bien. Donc, nous n'allons pas passer le générique habituel, hein, mais nous allons passer Eric Frage. Eric Frage, que nous saluons ici, Eric, avec Al Cantaire Desconegut. Merci, Hervé Terral.
Merci.
Et à très bientôt.
cantabum, totes les llengues, en turc, en grec, en japonès, en anglès, mai, en holandès, es pas a coquet de drengo. Manjos a cada rastellier, es faig de rock de disco, e qualche coccia palucco sus un cantaire vertadier. One, two, le vido es un trico, un te cadu se de merdo.